Pascal.
Bonjour Arnaud.
On continue notre série de vidéos qui permettent de voir la mise en place de Azure Multifactor Authentication et plus particulièrement dans cet épisode de cette aventure, comment est-ce qu'on met ça en œuvre pour Remote Desktop Services Gateway, donc la passerelle qui permet de publier des sessions à des bureaux à distance. Elle peut me servir de faire une authentification. Et bien, comment est-ce que je rajoute une couche multifacteur au niveau de cette passerelle?
Ok, donc d'abord deux mots très rapides sur qu'est-ce que c'est que l'authentification multifacteur, hein, puisqu'il est question de ça dans Multifactor Authentication. Donc l'authentification multifacteur, c'est quoi? C'est une authentification basée sur au moins deux facteurs parmi les trois types suivants. Donc quelque chose que vous connaissez, comme un mot de passe ou un code PIN, quelque chose que vous avez, comme une carte à puce, un téléphone ou une carte de crédit ou un jeton matériel, quelque chose qui vous caractérise, donc par exemple c'est quelque chose de biométrique, hein, ça peut être une empreinte digitale, une empreinte rétinienne, etc.
Ouais.
Donc deux facteurs de ces types-là.
De cette liste. J'imagine qu'on ne va pas mettre un doigt dans Azure, mais on va plutôt utiliser,
mettre un doigt dans Azure,
par exemple, le téléphone.
Exactement. Donc on va utiliser surtout le téléphone. Et puis ça permet également de renforcer l'authentification multifacteur par l'authentification de deux canaux différents. Donc notre authentification qui sera dans sur notre PC, là où on va mettre son mot de passe, et puis notre téléphone à côté. Donc qu'est-ce que c'est que Azure Multifactor Authentication, hein? C'est basé sur le rachat par Microsoft d'une technologie qui s'appelait Phone Factor, utilisée depuis quelques années par pas mal d'utilisateurs, donc bien reconnue, quelque chose qui marche très bien. On l'a acquis en 2012, et ça nous permet de faire des authentifications à la fois dans le cloud et sur des applications internes, à l'intérieur de notre data center, donc ce qui est pas mal dans sa versatilité donc du produit.
Absolument, on le disait, hein, donc on va avoir soit un appel, soit un code PIN qui va être échangé par SMS, un code à usage unique par SMS, pardon, et puis c'est une application qui est présente sur le store. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on valide ce second facteur dans le téléphone. Donc on le disait, ça peut être soit des applications locales dans le data center qui vont utiliser le serveur MFA pour conforter leur authentification de l'Active Directory. Donc, ça peut être cette option, c'est celle qu'on va utiliser à l'heure actuelle. Ça peut également être le cas d'applications utilisées dans le cloud et qui utilisent une identité dans le cloud également. Donc, c'est aussi cette option. Nous, on va se concentrer sur uniquement cette partie on-premise, comme on dit, chez nos amis américains. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre exactement dans ce cas de configuration? Alors là, c'est un petit peu sioux comme processus, puisqu'on va utiliser la Remote Desktop Gateway qui s'appelle Dubé Server 2, qui va demander une authentification dans mon serveur MFA qui est sur Dubé Server 4, et lui va aller chercher l'authentification sur l'Active Directory de cet environnement, évidemment, donc Dubé Server 1, je crois, dans mon environnement. SRV0, pardon, et SRV1, c'est lui qui contient la session de bureau à distance.
Donc le service RDSH.
Voilà, donc là, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre. Alors, ça paraît relativement simple à mettre en œuvre. On va voir que dans mon cas de configuration, j'ai utilisé quelques petites ruses pour faire fonctionner cet environnement. Qu'est-ce qu'on va faire dans une topologie classique? On va avoir une demande, en fait, sur le Remote Desktop Gateway qui va faire son authentification. De manière classique, ce serveur d'authentification, elle va se faire sur un serveur NPS, le Network Policy Server de Windows. Donc, on a le serveur Remote Desktop Gateway qui va faire des appels en Radius à ce service NPS. Ça, c'est l'option quand on fait un déploiement d'entreprise. On a plusieurs serveurs NPS en back-end qui vont servir à faire l'authentification. Dans mon environnement, c'est un petit environnement, donc ce que je veux faire, c'est un petit peu ruser là-dessus. Donc je vais d'abord prendre l'authentification ici sur mon NPS, donc sur mon NPS qui est installé sur mon Remote Desktop Gateway, je vais prendre l'authentification et je vais lui dire « tu l'as fait à distance sur le serveur MFA ». Et ce serveur MFA, en fait, il va agir en intermédiaire pour dire « je laisse passer ou je laisse pas passer l'utilisateur ». Et dans un vrai déploiement d'entreprise, c'est là que je mettrai mes NPS de back-end, juste après le serveur MFA. Donc, premier saut, ma ferme de Remote Desktop Gateway qui prenne les connexions entrantes. Je renvoie la demande de connexion sur ma ferme de serveur Multifactor Authentication. Et en troisième saut, je renvoie ma demande d'authentification sur mes serveurs NPS en back-end. qui sont en ferme, qui pourraient être hautement disponibles. Donc, c'est à ce à quoi ressemble une topologie hautement disponible, une topologie d'entreprise. Comme je n'ai pas voulu mettre ça en œuvre dans mon lab de test, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais des ruses sur le processing de NPS. Mm-hmm. Donc, dans le processing de NPS, il va avoir la demande d'authentification locale qui arrive pour l'utilisateur. Il va renvoyer ça au serveur NPS, au serveur, pardon, MFA. Mm-hmm. Le serveur MFA va recevoir la demande, il va dire oui ou non. Et au lieu de le renvoyer en back-end, il va le renvoyer vers le Remote Desktop Gateway, en fait, vers le NPS.
D'accord.
Sauf que ce sera une règle un petit peu particulière qui dit, cette fois-ci, tu ne passes pas par la boucle principale, sinon on fait une boucle infinie et puis ça ne finit pas, l'authentification, elle ne finira jamais. Mais là, qui va dire, si tu as une demande d'authentification qui provient de MFA, alors tu fais l'authentification locale.
D'accord. Donc juste pour la démo, le serveur qui est en haut ici de DB Serveteuse sert à la fois de premier radius
et de dernier radius.
Et de dernier radius.
Voilà, donc ça fait un petit peu de gymnastique, ouais. Parce que j'ai pas envie de payer toutes les licences Microsoft. Donc voilà comment on va faire cette configuration. Donc tu vois, ça demande un petit peu de gymnastique intellectuelle ici pour aller trapper dans les règles NPS quand est-ce que va arriver l'authentification du MFA. Donc première règle qui dira l'authentification qui arrive, je la renvoie vers MFA. Et deuxième règle qui dit, ah, si j'ai une demande d'authentification qui vient de MFA, alors là, je passe par des règles d'authentification locales.
Mmh. Un peu long, que c'est pas pour de la prod.
Voilà, c'est plus pour se faire plaisir au niveau de Network Policy Server. Mais sur une topologie d'entreprise, on fera plutôt comme je l'ai décrit précédemment.
Exactement.
Alors. Voilà ce au travers de quoi nous allons. Alors, les étapes principales, on va configurer le NPS pour Radius, donc authentification des demandes en back-end, qu'on renvoie vers le serveur MFA. Le serveur MFA, on va le paramétrer pour faire du Radius. Le serveur MFA va ensuite renvoyer ses demandes vers le NPS, donc le NPS qui est sur mon Remote Desktop Gateway, le frontal toujours. Et puis ensuite, j'ai fait effectivement ma tentative de connexion classique pour vérifier que c'est bien opérationnel. C'est parti ?
Oui. C'est parti.
Allez, première étape, le paramétrage de NPS. Donc là, j'ouvre nps.msc, je vais dans mon serveur NPS qui est présent sur mon Remote Desktop Gateway. Et là, je vais dans cette partie-là qui me dit configure central RD cap. Donc ça, c'est la console Remote Desktop Gateway. Et on lui dit tu configures une authentification centrale. Et cette authentification centrale, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, le RD cap store, toujours dans ma console Remote Desktop Gateway, elle dit tes authentifications, tes demandes d'authentification, tu vas les envoyer vers 10, 0, 1, 6. Donc là, tu prends ta demande d'authentification et tu l'envoies vers le serveur MFA. Deuxième étape, on va sur MFA pour activer le composant Radius, activer l'authentification Radius. Donc là, c'est ma console MFA telle qu'on l'a vu dans les épisodes précédents. On va effectivement dire j'autorise du Radius. On vérifie là qu'on utilise bien les bons ports tels que NPS utilise. NPS utilise un de ces deux couples, donc il n'y a pas de problème, c'est compatible. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va ajouter un client Radius pour dire telle machine à distance, elle est capable effectivement de m'envoyer des demandes d'authentification. Donc cette demande d'authentification Radius, c'est la suivante, MFA test, ça c'est juste un nom local. Ce qui est important à préciser par contre, c'est l'adresse IP du serveur Radius qui t'envoie la demande, donc de mon Remote Desktop Gateway. Je mets le shared secret ici, que je vais définir et confirmer. Et puis, évidemment, sur mon serveur NPS en frontal, j'aurai défini le même secret. C'est comme ça que ça marche le mieux en général. On configure donc la partie client et on configure également la partie target. Tu vois ? C'est assez vicieux ici, je spécifie les deux. Parce que je vais recevoir des demandes de mon Remote Desktop Gateway et je vais lui en renvoyer également. Donc c'est une target distante ici. Et je vais lui spécifier, évidemment ici, un secret partagé. Donc là, je vérifie que j'ai bien, dans la partie client et dans la partie target, la référence à mon 10.0.1.4.
Donc la première connexion du... la première requête Radius, c'est la partie...
Radius Client.
De gauche, voilà. Radius Client, et la deuxième.
Et la deuxième, c'est pour quand moi, serveur MFA, j'ai validé l'authentification et je veux dire oui ou non au serveur NPS qui est en back-end.
Ouais.
Donc là, on va sur le serveur NPS qui est en back-end. Dans le serveur NPS qui est en back-end, je vais configurer effectivement également que j'ai un Remote Radius Server Group. Donc là, dans la partie NPS, cette section-là, elle va me dire j'ai telle machine qui sont capables de m'envoyer des paquets et je vais tel serveur Radius sur lequel je vais envoyer des paquets. Donc là, même topo, on aura les deux parties à configurer. Donc on spécifie ça, on met de la même manière la clé partagée ici. Donc dans les TS Gateway et Server Group, j'ai 10.0.1.6 qui est mon serveur en face. Et puis je mets la clé partagée également qui sera valide pour valider le channel qui va exister entre mes deux serveurs NPS. Là, petite astuce qui est un petit peu inhérent au monde de MFA, c'est que parfois un appel, ça prend plus de temps que prévu à arriver.
C'est pas faux.
Donc on va étendre en fait les délais par défaut qui sont présents dans le serveur Radius. Parce que par défaut, on doit attendre, je crois, une trentaine de secondes pour avoir une réponse du serveur en face. Or, il se trouve que si on appelle qui est routé à l'international, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, on va dire au serveur Radius de Microsoft, tu as un serveur Radius en face qui doit demander un petit peu plus de temps. Donc, tranquille, tu peux t'attendre jusqu'à une minute. Donc ça, c'est ce qu'on recommande par défaut. Maintenant, on peut être qualifié dans votre environnement. S'il y a des délais qui sont plus importants ou nécessaires, ben, ce sera à vous de faire le tuning ici du serveur. Donc là, on suit cette demande d'authentification. Et puis, on a la règle post-processing qui va arriver ici. Tout à l'heure, on avait une première règle qui était créée par défaut et qui permettait d'envoyer depuis le serveur Radius en frontal, depuis le NPS en frontal, une demande d'authentification. Et bien là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer une règle de post-processing pour la TS Gateway. Et on va dire, si tu as une demande qui vient du client Radius MFA, alors tu vas faire les authentifications en local. Donc j'ai mon serveur NPS ici, et là j'ai ma Connection Request Policy. Donc la CRP, c'est ce qui va faire définir le processing de toutes les requêtes entrantes. Donc là, on voit qu'en fait j'ai deux règles dans ma CRP, qui est relativement simple pour un serveur Radius. J'ai ma règle MFA. Et j'ai ma règle TS Gateway Authorization Policy. Donc là, en fait, tu vois que ces règles vont être exécutées dans l'ordre suivant. Et cette règle-là, la première règle, en fait, elle a un petit caractère un petit peu spécifique. Elle a un Client Friendly Name MFA. Donc ça veut dire que c'est la règle qui va être relative au paquet qui nous arrive depuis MFA, d'accord, depuis le serveur MFA. Et là, tu vas voir que quand j'ai un paquet qui arrive depuis le serveur MFA, ben effectivement, je vais faire une authentification en local. Donc là, ce que je suis en train de te montrer, c'est en fait la seconde passe, l'authentification de seconde passe.
Tout à fait.
Maintenant, la première passe, qui est la passe de quand j'ai le client vient se connecter à mon serveur remote desktop gateway.
C'est tous les autres cas. En
fait. Voilà, la première passe. Et ben, on va dire que là, tous les demandes entrantes, je les authentifie pas en local. Je l'envoie vers ma TS gateway server group. Donc, premier cas, j'ai un parsing des règles qui va dire.
Non, mais c'est clair.
J'ai une demande qui arrive depuis remote desktop gateway. Est-ce que ma règle MFA marche? Bah non, c'est quelque chose qui m'est envoyé par le Remote Desktop Gateway. Donc c'est la seconde règle qui s'applique. La seconde règle, elle dit, je ne fais rien en local, je renvoie en back-end MFA. MFA a fait son job, tac tac tac, il va dire oui, non, en mode Radius. Et cette réponse Radius, elle va dire du coup, quand le paquet va revenir depuis MFA,
ouais, c'est la première règle,
il va être trappé MFA par la première règle. Voilà. Et cette première règle, elle va dire, bah, tu fais l'authentification classique NPS de l'Active Directory. Donc là, tu es sûr que tu as ton authentification MFA et ton authentification AD qui sont faites pour ouvrir ta session Remote Desktop Gateway. C'est un petit peu compliqué pour une première approche.
Mais pour une démo, ça a le mérite d'être plus simple puisqu'il y a un seul serveur Radius.
Il y a un seul serveur Radius.
Qui est en même temps serveur Gateway.
Voilà, on utilise bien les ressources.
Évidemment, on aurait cette règle MFA uniquement sur les back-end Radius.
Exactement. T'as tout compris, Pascal, ça me fait vachement plaisir.
Voilà.
On s'économise pas la démo, on se la refait. On aime tellement bien cette petite démo avec l'ouverture de session TS.
Bah, écoute, oui, on a le temps.
Allez, on vérifie ça. Et ben, on était tout à l'heure sur cette demande d'authentification. On refait le replay. On a mon service ici sur ADFS01 qui est à l'intérieur de mon réseau. Arno Labs, ma remote desktop gateway. Je mets le mot de passe. Je vais aller sur mon téléphone voir la demande d'authentification. La notification va arriver à un moment ou à un autre. Et puis, c'est là que j'aurai bien cette ouverture de session TS. Hop, ah, il est là. Donc là, j'ai la demande d'authentification qui arrive. Vérifier l'authentification. Je vois bien que j'ai bien affaire à RDG 01.
Oui.
Et là, le fameux 3615. Hop, on vérifie. Il nous dit que c'est bon. On ferme la session. Et pendant ça, tu vois que ma session TS, elle s'ouvre.
Et voilà.
Donc voilà, tous ces trucs un petit peu compliqués. À quoi ça sert ?
Une grande facilité pour l'utilisateur en tout cas.
Ah bah l'utilisateur, lui, pour lui, c'est relativement la même chose que ce qu'il a l'habitude de faire.
Donc, si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres sujets, ben, n'hésitez pas à nous tweeter à nos comptes Twitter ici, Pessolière et Arnaud Lheureux, avec le hashtag CourMVA. Et puis, d'autres modules, évidemment, sont relatifs au MFA, à Azure MFA sur MVA. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les autres modules.
Exactement. Merci, Pascal.
Merci, Arnaud.